France Musique. Les grands entretiens, Anne Montaron, France Musique.
Je m'appelle Freddy Eichelberger, ou Eichelberger selon votre culture. Je suis né le 14 juin 1961 à Paris 17e et je suis musicien.
Freddy Eichelberger, vous ne jouez pas que de l'orgue et quantité de claviers, parce qu'on a parlé du clavecin, mais il y a tout un tas d'instruments, clavicordes et autres sur lesquels vous avez posé vos doigts. Vous jouez aussi du sistre,
oui,
de temps en temps.
Oui, un peu, oui, parce que quand on était en spectacle avec les Witches, en fait, j'avais un tout petit clavecin que je pouvais prendre dans mes bras, mais je ne pouvais pas le jouer en même temps. Enfin, c'était quand même... Et donc j'étais le seul qui était un peu fixe sur scène, alors tous les autres pouvaient se balader comme ils voulaient. Et j'ai dit à Pascal Bocquet, bah tiens, je pourrais peut-être jouer du colachon, c'est ce grand instrument à 3 ou 4 cordes, là, de Comédia dell'Arte, qui fait des basses, boing, boing, boing. Et elle m'a dit, mais il y a le sistre aussi, je lui ai dit, c'est quoi le sistre? Et pour son malheur, la pauvre, elle m'a filé un sistre dans les pattes. Et Pascal, qui adore les instruments qui tiennent l'accord, etc., et vous vous retrouvez avec cette poêle à frire à cordes métalliques que je maîtrisais peu au départ. Mmh. Et l'avantage du sistre, c'est que le sistre a une longue histoire d'instruments amateurs, parce qu'il a 4 cœurs seulement, donc c'est très facile de faire une quantité d'accords avec 2 ou 3 doigts déjà. En plus, avec le jeu des cordes qui sont dans le même sens, c'est toujours prêt. Mmh. Donc apprendre à jouer du sistre sommaire avec 5 ou 6 accords pour accompagner, ça vient très très vite. Et après, j'ai appris. D'abord, j'ai fini par avoir un bon sistre, et puis à savoir l'accorder comme il faut, plus rapidement, savoir comment faire pour qu'il se désaccorde moins. Et donc, voilà, le sistre. Mais maintenant, je joue du violon aussi. Ça, c'est ma dernière joie. Non, j'ai la chance d'habiter Marseille et d'avoir le département de musique ancienne d'Aix en Provence, où enseigne Alice Pierrot, et je me suis mis au violon parce que c'était un vieux regret, et il y a un âge où il ne faut plus avoir de regrets. Et donc j'ai commencé le violon à l'âge de 50 ans, donc. Et ça a été plus vite que prévu. Donc j'ai déjà joué dans les violons au Grand Tate, au Temple, à la Bastille, au moins j'en ai fait 6 ou 7 déjà.
Invraisemblable. Aucune limite alors.
Mais oui, mais nos limites.
C'est
pas
l'instrument le plus facile, le violon.
Non, mais c'est aussi la vision qu'on en a. Oui, il y a encore 80% de la musique pour violon que je ne peux pas faire, mais il y a quand même beaucoup de choses que je peux faire. Et entre autres, faire une partie de deuxième violon dans une cantate de Bach, je la regarde à l'avance. Et si c'est dans mes cordes, c'est le cas de le dire, je peux honnêtement, et sans dépareiller, c'est-à-dire que si je chantais que je devais être un boulet pour les autres, je ne le ferais pas. Mais surtout, c'était une telle joie, j'en rêvais depuis tellement longtemps, et... Enfin, on peut enfler le son, le diminuer, le faire vivre. Tous les instruments inertes que sont le clavecin et l'orgue. Et je dis pas inexpressif, hein.
Oui.
Je dis inerte, c'est-à-dire que au départ, le clavecin, ça fait chclonk et c'est terminé, quoi. Après, on a un peu d'accent sur le revêt de la touche. L'orgue, pareil. On fait des nuances par artifice. Et c'est pas facile, d'ailleurs. Et c'est quand même des instruments très expressifs, parce que les beaux orgues ou les beaux clavecins, selon la personne qui joue, c'est pas le même instrument. Donc ça veut dire que c'est quand même beaucoup plus expressif qu'on ne le croit.
Mais malgré tout, il y a une frustration.
Ben, on appuie, et puis ça fait jetonc, et l'autre ça fait tut, et puis voilà. Dans un cas, le son meurt, et dans l'autre, il est stable. Alors que le violon, le son, vous en faites ce que vous voulez.
Thank you. Il y a d'autres rêves comme ça que vous auriez aimé réaliser et qui sont encore dans un petit coin de la tête? Jouer du violon, c'est fait.
Ça y est, jouer du violon, c'est fait. Conduire un train de grande ligne, un train de nuit. Conduire un Paris-Vienne.
Ah oui.
Ouais, ça, j'aurais adoré.
Là, vous renouez un peu avec vos origines, hein, le voyage.
Oui.
Origine familiale. Ouais.
Puis, bon, piloter, pourquoi pas, mais bon, finalement, ça s'est pas fait. Alors, conduire un train, oui.
Transporter tous ces gens, c'est comme les transporter avec la musique.
Mais oui, c'est vrai. Et vous savez, c'est dommage, tout ce qu'on lit depuis des années maintenant, que des sociétés à salaire fixe, ça serait parfaitement possible, en fait. Où chacun touche un salaire, qu'il travaille ou pas, et après, chacun fait ce qu'il veut, et s'il travaille plus, et s'il se met à travailler, il gagne plus de sous, etc. Mais avec les... Et du coup, on pourrait s'arrêter, faire un an de formation, changer de métier, etc. Ça, ça aurait été génial. Moi, j'aurais conduit des trains pendant 5 ou 6 ans, quoi.
Avoir plusieurs vies en une.
Oui, ben oui, c'est ça aussi. Et ça serait tellement enrichissant, tout ce qu'on pourrait s'apporter en faisant ça. Puis après, bah, pourquoi pas écrire des livres, je sais pas, enfin, pour l'instant, là, avec le violon, j'ai quand même... Là, c'est un gros regret qui a sauté, là. Donc, si vous voulez, là, il ne reste plus grand-chose.
Ouais.
Oui, non, à part conduire le train de nuit. Mais le train de nuit, il les supprime de plus en plus, de toute manière, mais...
Frédéric Schulberger, vous avez choisi une ville lumineuse pour vivre, Marseille.
Oui.
Quand est-ce que vous êtes arrivé là-bas?
En 2006, il y a 13 ans. Vous voyez, j'avais besoin de cette lumière. J'avais besoin de lumière. J'ai toujours besoin de lumière, quelle qu'elle soit dans ma vie, en fait. Mais oui, je crois que j'y suis allé qu'il y a 13 ans parce que, à l'époque où je suis tombé amoureux de cette ville, il fallait encore que je sois à Paris. Tous mes amis étaient à Paris, tous les gens avec qui je faisais de la musique étaient à Paris. Je n'avais pas encore de groupe suffisamment stable pour pouvoir habiter où je voulais. Puis je n'avais pas fini mon histoire parisienne. J'habitais un endroit merveilleux dans le 13e arrondissement, un ancien couvent du 17e, donc avec une grande cour. Enfin, c'était. Voilà, donc j'avais encore quelques années à passer là-bas. Mais quand je suis arrivé à Marseille, c'est la lumière qui m'a sauté aux yeux, vraiment. Surtout que c'est quand même assez rude, Marseille. Hein, c'est. Ça vibre très fort, c'est un niveau d'énergie très haut, la lumière est crue. Quand il y a du vent, il est fort. Quand il pleut, c'est des trombes. Mais je crois que je suis arrivé dans cette ville, c'était tellement cosmopolite. C'était un grand port. Et la lumière, ce ciel bleu, ce vent, en fait, je pense que c'est aussi ce qui ressemblait le plus à Pointe-à-Pitre.
Là aussi, on referme une boucle.
Là aussi, on referme une boucle, ouais.
Vous habitez tout près de la mer?
Maintenant, oui. Je suis tout au sud de Marseille, à un quartier qui s'appelle la Grotte Roland. Et je suis à flanc de massif, donc j'ai la mer en bas et la montagne au bout de la rue. Et très très proche de la nature, donc. Et donc j'apprends cette nature-là, aussi. Ah oui, j'ai beaucoup de chance. Quand vous arrivez chez moi, sur la rue, il y a un petit jardin avec deux oliviers et demi. C'est-à-dire deux oliviers qui étaient déjà là quand je suis arrivé. Et le troisième, c'en est un que j'ai depuis 20 ans, que j'ai toujours eu en pot, qui a grandi extrêmement lentement parce qu'il a toujours été en pot. Et là, je lui ai rendu sa liberté en le mettant en terre. En fait, rendre sa liberté à un arbre, c'est le planter et l'attacher finalement. C'est ça qui est drôle. Avant, il était libre et en pot. Maintenant, c'est lui qui vit sa vie propre. Et j'ai appris qu'en Provence, quand on a trois oliviers en triangle, comme ça, c'est un signe de bienvenue. Donc je suis très très content de cette histoire. Donc j'ai d'abord mon petit jardin, ensuite maintenant j'ai une véranda, donc une pièce très lumineuse. Et ensuite il y a la grande pièce. Donc dans la grande pièce, j'ai un piano Pleyel 1879 que j'ai sauvé, qui était le piano du temple où j'allais quand j'étais petit. Donc j'ai mon piano Pleyel, où là aussi, si on parlait de boucle, j'ai adhéré à une association d'amoureux qui s'appelle Fan des Rares, d'amoureux de piano ancien. Et je suis allé chercher donc la date exacte de ce piano. Ils ont scanné les livres de compte de Pleyel. Et j'arrive au nom du gars qui a réglé le piano et je vois Eichelberger. Alors on n'est pas des millions, on s'appelait comme ça. Je suis accroché à ce piano de toute ma vie et le gars qui a réglé mon piano s'appelait comme moi en 1879. C'est quand même dingue. Quoi. Enfin, voilà. Enfin bon, j'arrête de faire des digressions. Donc il y a le Pleyel. Il y a un tout petit piano carré, Merken, de 1790 à peu près, restauré par René Jouffrion. J'ai mon grand clavecin d'Émile Jobin, d'après Créchy. Et il y a aussi un petit clavicorde en essence, qui a été fait par Edgardo Campos, qui a travaillé chez Émile Jobin pendant un an ou deux, là. Qui joue aussi, lui, il est claveciniste, continuiste. Donc ça, c'est dans la grande pièce. Avec des bijoux, vous avec une aigrette. Et non, vous n'êtes plus Lisette. Et non, ne portez plus ce nom.
France Musique, les grands entretiens de Freddy Eichelberger.
Et j'ai une petite pièce au fond qui est une pièce bureau où là il y a un harmonium à deux claviers et pédaliers d'une part, et j'ai trois clavicordes en fait, un clavicorde pédalier et deux clavicordes l'un sur l'autre afin de pouvoir bosser l'orgue sur les clavicordes, ce qui a changé ma vie. Voilà. Et à part ça, au mur il y a un alto, un violon 17. Enfin, tout ça, c'est des copies. Hein. Un alto, genre 1600-1650. Un violon 17e, un violon 18e. Un dessus de violon d'après une planche de Pretorius. Et deux sistres.
Alors, vous disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas fétichiste, mais vous êtes collectionneur.
Alors, ça, c'est marrant, ouais. Quelqu'un m'a fait la remarque la semaine dernière. Le problème, quand vous jouez de la musique ancienne et que vous êtes un peu rigoureux, c'est que c'est quand même 4 siècles de répertoire, quoi. Donc, vous ne pouvez pas jouer de la musique 1550 sur un grand clavecin 18e. Et donc, tout ça, c'est des outils. C'est des outils dont j'ai besoin. Il n'y a aucun qui est gratuit, en fait. Les violons, peut-être un peu plus, mais encore, même pas. Même pas. Donc, chacun a un usage vraiment bien, bien précis. Chacun a son rôle, hein. Chacun a son rôle. Thank you.
Est-ce que vous considérez finalement votre métier de musicien comme celui d'un artisan ? L'instrument comme outil. D'ailleurs, vous travaillez avec des artisans, avec des luthiers, beaucoup.
Oui, je prends un peu de temps pour réfléchir. Je trouve qu'il y a une part d'artisanat et une part d'artiste. Un côté artisan, un côté artiste. J'aime beaucoup le mot d'artisan parce que il y a une notion de construction et de service. On sert l'art quand on est artisan. Et alors, quand on est claveciniste, on est un peu frontalier dans la facture, parce qu'on change nous-mêmes nos becs de clavecin, on change nos cordes, on taille les becs, on fait beaucoup de bricoles. L'orgue aussi, hein, quand ça coince, on grimpe dans la machine, on va essayer de décoincer là où ça coince. Enfin bon, un peu comme les motards qui savent bricoler leur bécane. Hein, pour moi, il y a un mélange des deux. Il y a un mélange des deux. Bien, l'artiste pur, est-ce que ça existe? C'est tellement de travail pour être artiste. Je crois qu'il doit être les deux. En fait, enfin, c'est toujours pareil, émetteur-récepteur. Moi, je mets des mots et je ne sais pas ce que vous entendez ou ce que les auditeurs peuvent entendre. Mais quand je dis qu'un musicien est artiste, c'est qu'il m'a fait vibrer. Et donc, pour moi, un musicien, il doit être artiste. Et s'il doit être artisan, il doit l'être aussi, parce que musicien, c'est toujours se remettre en question. Travailler. Je me suis rendu compte que je me suis toujours vécu, assez souvent vécu comme un feignant, en fait. Quand je voyais d'autres que moi qui travaillaient beaucoup plus que moi, passaient des heures au clavier, parce que je faisais beaucoup moins, je m'aperçois qu'en fait, j'ai travaillé tout le temps et que je travaille tout le temps. Même à moto, je travaille. La moto, c'est formidable parce que vous n'avez pas de radio. Enfin, si, maintenant, il y a les systèmes, mais je déteste ça. Donc, ben, vous êtes là, vous. Ben, je revois les morceaux que je te range au concert. J'apprends souvent beaucoup par cœur, quand même si après je lis. Mais pour moi, c'est une sécurité de savoir par cœur. Et ben, je révise en moto. Et puis, ben, dans le train, par contre, j'ai mes mains libres, donc oui, je peux. Je peux engranger en micro-mouvement la nerf de vie en que je travaille. Hein.
Vous êtes sur le point, Freddy Eschelberger, d'enregistrer, là, dans quelques jours, avec Odile Edouard, une musicienne avec qui vous jouez depuis très très longtemps, des sonates de Bach, et puis il y a cette intégrale des cantates de Bach. Alors, je voulais savoir, que représente pour vous la musique de Bach ?
Quand j'étais gamin, elle m'a sauvé la vie. Chopin aussi, hein. Mais, oui. C'est-à-dire qu'elle m'a sauvé la vie, parce que alors qu'il fallait vraiment aussi être rigoureux, donc je bouffais du choral de Bach. Je pense que cette rigueur et cette générosité, cette sensibilité que je trouve qu'il y a dans la musique de Bach, c'était la même que celle de mes grands-parents, de Colmar. Pour moi, c'était la connexion, elle était là. Ensuite, oui, c'est... beaucoup de respect, évidemment. C'est dans les études, c'est un peu un monument. Mais après, le monument, c'est un peu chiant, le monument.
Oui, il y a un moment où elle est intimidante, la musique de Bach, pour un musicien, non ?
Oui, mais... je trouve qu'il ne faut pas se laisser intimider. C'est pas ça qu'il voulait. Il ne voulait pas écraser ses contemporains de sa supériorité... lui, il écrivait SDG, il mettait un pour la seule gloire de Dieu. Il s'effaçait, mais la gloire de Dieu, pour lui, ça voulait dire aussi cette transmission, j'imagine. Enfin, ce qu'il voulait transmettre par toute cette musique qu'il a écrite. Voilà, et plus tard, j'ai eu la chance qu'on me propose d'écrire toute la partie manquante d'une passion selon Saint-Marc. Et je me suis retrouvé dans l'urgence faire des kilomètres de, écrire des kilomètres de récitatifs. J'avais le facsimilé, quand le texte me semblait douteux, une fois j'ai vérifié dans la Bible de mon grand-père, la Bible en allemand de mon grand-père. Et c'est là que j'ai compris que cette musique-là, c'était ma culture, en fait. Ça m'a sauté. Donc en fait, tout ce que je viens de dire, c'est un peu une boucle qui part de mon grand-père et qui revient à mon grand-père. Donc je dirais pas que c'est mon papa, Bach, mais c'est peut-être mon grand-père, un peu. Je sais pas. Et puis cette expérience d'écriture de Saint-Marc rejoint ce que je disais sur les circonstances dans lesquelles les musiciens écrivaient. Je me suis senti beaucoup plus proche de lui, en me retrouvant dans les mêmes conditions, de devoir faire une musique la mieux possible, dans un temps réduit. Oui, voilà, c'était retrouvé. Alors là, on se sent artisan, là, pour le coup.
Le père, un compositeur cher au cœur de Freddy Eschelberger, et pourtant il ne l'a pas encore enregistré, je dis bien pas encore, apparaître à l'automne sur le label Lancelade, un enregistrement des sonates pour violon et clavecin de Bach, justement, avec la violoniste Odile Edouard et Freddy Eschelberger à l'orgue. Et ici, en avant-première, nous écoutions les deux musiciens dans l'andante de la sonate BWV 1015. Un grand merci à toute l'équipe qui a permis la réalisation de ce portrait de Freddy Eschelberger. Marie Groux, avec Pierre-Henri, Valérie Lavalard, Benjamin Thuot, Aude Vassan et Flora Sternadel. Podcast et réécoute de ces grands entretiens sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.